Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
Mon frère me passe un coup de fil. Il me dit « Virginie, viens vite, papa a laissé un mot. » Je ne le trouve pas. Et là, il hurle au téléphone. Il me dit « C'est fini. »
Qu'est-ce qu'il avait fait ?
Il s'est tiré une balle en plein cœur.
C'était le dernier dimanche des vacances après Noël, Nouvel An. Je monte dans la chambre d'Anthony, je lui demande s'il a fait ses devoirs. Il me dit non. Avec mon mari, on se fâche. On lui dit, mais pense à ton brevet, c'est ton avenir. Il se met à pleurer, il monte. Et on entend un gros boum. Voilà, ça s'est passé en une fraction, c'est rien, une deux minutes.
On n'est pas fait pour enterrer nos enfants. Amandine est tombée dans une dépression extrêmement importante. Elle n'était plus en état de s'occuper d'elle-même. Et le soir, avant de se coucher, elle m'appelait. Et ce soir-là, elle ne l'a pas fait. Elle était venue passer 10 jours à la maison. Elle nous a offert ce temps où elle était souriante, où je l'ai retrouvée. Où... Et moi, je le ressens comme un ultime cadeau.
Bonjour à tous et merci infiniment d'être fidèles à votre rendez-vous de l'après-midi. Bonjour Marie Pezet.
Bonjour.
Faustine. Merci beaucoup d'être avec vous. Vous êtes notre psychologue et à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, vous allez nous aider aujourd'hui à aborder ce sujet qui est si sensible. On ne l'a jamais abordé dans Ça commence aujourd'hui.
Oh, c'est un sujet très douloureux, très difficile à regarder en face.
Très tabou aussi.
Mais c'est un sujet qui est important d'attraper et de mettre sur la place publique, parce que c'est quand même 200 000 tentatives de suicide par an dans ce pays. C'est quand même 10 500 morts. C'est 3 fois plus que les accidents de la route. Et entre 15 et 29 ans, c'est la deuxième cause de mortalité. Donc, il était temps de faire cette émission.
Il est important de briser le silence, d'en parler pour peut-être sauver des vies ou pour vous aider à la maison. Merci d'être avec nous, fidèles à Ça commence aujourd'hui. Bonjour Virginie.
Bonjour Faustine.
Bonjour Karine.
Bonjour Faustine.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci infiniment pour votre confiance. Je sais à quel point c'est difficile, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez accepté aujourd'hui de venir nous en parler. Karine.
Moi, je suis venue pour briser le tabou, pour toutes les familles brisées par le suicide. Leur dire qu'elles ne sont pas seules, ce ne sont pas des cas isolés. On a des sas pour parler, se rencontrer. Je vous remercie beaucoup, Faustine, aujourd'hui de nous accueillir parce qu'il y a très peu de visibilité sur le suicide, sur le deuil. Et aussi pour ces personnes qui sont mal dans leur peau, qui pensent au suicide, leur dire que vous comptez, vos familles vous aiment, vous avez de la valeur. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez de la valeur. Et aussi, surtout, c'est très égoïste ce que je vais dire, mais je le fais pour moi et ma famille. Parce que le tabou, ça touche nos propres familles, nos propres foyers.
Bien sûr, bien sûr. Et on pense très fort à Anthony, votre garçon.
Merci beaucoup.
Qui s'est suicidé. Vous allez nous raconter son histoire et c'est une façon de rendre hommage. Mmh. De rendre hommage également à Didier, Virginie, votre papa.
Oui.
Également très fort à Amandine, votre fille. Ça me touche parce que naturellement, vous savez, quand nos invités s'installent sur ce plateau, ils se mettent un peu comme ils veulent. Puis vous, vous êtes rapprochés parce que vous êtes soudés et vous avez besoin de vous envoyer vos énergies et vous donner vos énergies respectives. C'est ce qu'on va faire. Alors, comme je le disais, on va rendre hommage donc à ceux dont vous êtes venus nous parler aujourd'hui. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me décrire votre papa ? Quel genre d'homme c'était votre papa ?
Alors, mon papa, c'était quelqu'un de généreux. Oui. Il aimait beaucoup donner à sa famille, à ses amis. Il aimait qu'on partage plein de moments ensemble. Il aimait nous faire partager également sa passion. C'était quelqu'un aussi exigeant vers lui-même.
Oui.
Un papa formidable, je pense, comme tous les enfants, on réalise notre papa.
Mon père, ce héros. Alors, est-ce que vous nous permettez, je sais que ce n'est pas facile, mais de faire aussi un petit peu connaissance, nous aussi, avec Didier, à travers quelques images que vous nous avez confiées.
Avec plaisir.
Vous êtes d'accord ?
Oui.
Didier est un bon vivant par excellence. Généreux, il aime réunir autour de lui famille et amis. Balades, anniversaires, vacances, chaque événement est pour lui l'occasion de partager des moments précieux. Ayant connu une enfance difficile, il est d'autant plus proche de ses enfants et de sa compagne Sylvie. Exigeant envers lui-même, il n'hésite pas à se plier en quatre pour ceux qui l'entourent, au point parfois de s'oublier.
difficile.
Pas évident. Mais ça me fait plaisir de le voir.
Bien sûr. Où est-ce qu'il en était dans sa vie avant ce 24 novembre 2014? Où est-ce qu'il en était, lui?
Mon papa était chef d'entreprise.
Ouais.
Dans la maçonnerie. Il travaillait avec mon frère. Donc voilà, épanoui professionnellement.
Et vous, vous en étiez où alors, à cette époque-là de votre vie?
À cette époque-là, alors moi, c'est un peu compliqué. J'ai, pour résumer, en mars 2014, j'étais enceinte et j'ai perdu mon fils à 5 mois et demi de grossesse.
Oh.
Après, je me suis séparée de mon ami. Voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Oui. Et je suis retournée chez mes parents en septembre 2014. Donc voilà.
Vous veniez de revenir à la maison pour vous faire un petit peu. Pour être épaulée par votre famille.
Voilà.
Comment il vivait ce retour à la maison, votre papa? Il était content de retrouver sa fille aussi?
Il était content de retrouver sa fille, mais peiné pour moi parce qu'il adorait mon conjoint. Donc,
Ah oui. Et le couple que formaient vos parents, ils en étaient où à cette période?
Voilà, heureux, enfin, très bien. Après, bon, quand je suis revenue, ce n'était pas forcément facile pour eux parce qu'ils avaient une vie à deux. Et moi, j'arrive, je débarque. Ce n'était pas forcément évident, mais non, ça allait.
Est-ce que vous pourriez nous raconter ce jour où
votre
vie a basculé alors?
Mon frère travaillait dans la même entreprise que mon papa.
Oui.
Et moi, je me préparais comme tous les lundis matins pour aller au travail. Et mon frère me passe un coup de fil. Ça faisait pas longtemps que j'étais réveillée. Et il me dit, Virginie, viens vite, papa a laissé un mot. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Et je lui dis, écoute, j'arrive. Et je pense que dans ces cas-là, le cerveau se met sur off. Et je dis, écoute, tu patientes, j'arrive tout de suite. Donc j'ai descendu les escaliers. Je me rappelle avoir croisé ma maman dans l'escalier, me demandant ce qui se passait. Je lui ai dit, papa a laissé un mot, j'arrive, je reviens. Et je suis partie. Donc j'ai pris ma voiture. Il faut savoir qu'entre mon lieu de domicile et le lieu de la société, il y a 5 minutes de route.
Donc il était à sa société, c'est là où il avait laissé un mot. Ouais.
Voilà, tout à fait.
Et, donc vous êtes arrivée 5 minutes plus tard sur place.
Voilà. Alors avant d'arriver sur place, j'ai franchi à peine le portail. Mon frère me rappelle. Et là, il hurle au téléphone. Il me dit, c'est fini. Et il hurle de colère. Et là, je lui dis, écoute, j'appelle les pompiers, je raccroche, j'arrive. Et du coup, j'ai appelé les pompiers. Alors, c'est pas bien le téléphone au volant, hein, mais voilà, on réfléchit pas dans ces moments-là.
On vous pardonnera.
Et du coup, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers me demandaient ce qui se passait, sauf que j'en avais aucune info. Et j'essayais de les garder au téléphone, tant bien que mal. Et je suis arrivée à la société, j'ai vu mon frère. Je lui ai passé les pompiers, j'ai dit, papa, il est où? Il a pas voulu me dire où il était tout de suite. Je pense qu'il était en colère, il pleurait, et j'ai fini par le bousculer un petit peu et dire « Mais il est où? Il est où ?»
Vous vouliez le voir, votre père?
Voilà. Ouais. Je voulais essayer de le sauver, de faire quelque chose, je ne savais pas ce qui se passait.
Oui, vous ne compreniez pas, oui.
Voilà, et du coup, je suis allée dans la pièce où il était, et je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait. Pas du tout. Pas du tout. J'étais assise par terre, à côté de lui, et je me disais « Mais qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les secours à apporter ?» Je n'avais pas conscience de ce qu'il fallait faire.
Qu'est-ce qu'il avait fait?
Il s'est tiré une balle en plein cœur. Et quand je l'ai vu, je ne savais pas quoi faire, je n'ai pas réalisé. Et en même temps, je regardais son visage et je voyais un visage tellement apaisé et souriant. Il avait ce petit sourire au coin en disant « Vous inquiétez pas, je suis apaisée. » Enfin, j'avais ce visage-là, en fait, de lui.
Vous n'étiez pas en colère? Vous n'avez pas ressenti de la colère? Vous ne lui en avez pas voulu tout de suite?
Je crois que non, même encore aujourd'hui, je lui en veux pas. J'ai pas ce sentiment de colère et de haine en moi. Je me dis, s'il a pris cette décision, je dois le respecter. Et s'il l'a fait, c'est pour lui, enfin. Je me dis, c'est bête, hein, mais je me dis, enfin, il a pensé à lui, pour une fois. Et il s'est dit, c'est maintenant et c'est fini. Donc je respecte ce choix.
Est-ce qu'il il avait laissé une lettre? Est-ce qu'il avait expliqué son geste, votre père?
Oui. Il a laissé un mot qui était davantage adressé à mon frère.
Oui.
Mais
pourquoi davantage adressé? Parce qu'ils travaillaient ensemble.
Voilà, tout à fait. Il lui a expliqué dans la lettre comment faire au niveau de la société. Enfin, c'était plus du côté administratif qu'autre chose. Mais c'était mon papa, il pensait
c'est
toujours
fou,
aux
ça,
autres.
C'est fou, ça, qu'il ait pensé à ça.
C'est ça. Et après, il a surtout dit à mon frère de me protéger, moi, de veiller sur moi, ma maman, et sa maman à lui, donc ma grand-mère.
Il a fait de lui le chef de famille, en fait. Il a transmis le flambeau de l'homme de la famille.
Exactement. C'est lui qui réunissait tout le monde. Donc, oui.
J'imagine que vous n'avez pas arrêté de vous refaire le film des mois avant, des mois précédant sa disparition en permanence pour savoir s'il y a des signes, c'est inévitable, s'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu.
Tout à fait. On se repasse des choses dans la tête, même le Les semaines qui ont suivi, on parlait ensemble, on se disait, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on aurait pu détecter? Et avec ce recul, on se dit, oui, il y avait de la fatigue. On voyait qu'il était fatigué. La veille, j'ai ce souvenir qu'il a acheté de la viande qui coûtait cher. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne mange pas une viande à ce prix-là. Enfin, d'habitude, on ne faisait pas ça. Ouais. Et il est parti se coucher tôt. Et après, je me dis, oui, c'est... Mais on en a conscience qu'après, on est tellement dans notre quotidien de la vie qu'on n'y fait pas gaffe. On n'y fait pas gaffe.
Vous en avez parlé tous ensemble?
Alors on en a parlé dans les débuts, puis après c'est devenu un peu tabou. Peut-être pour protéger l'autre et pas non plus faire du mal, je sais pas. Après, je pense qu'on s'en est voulu un petit peu mutuellement et on en a parlé vraiment un an après quand on n'arrivait plus du tout à communiquer ensemble et que ça a un petit peu éclaté.
Pourquoi vous vous en êtes voulu mutuellement? Parce qu'on essaie de trouver une réponse et que du coup, il faut qu'on en veuille à quelqu'un, en fait.
Voilà, exactement, c'est ça.
C'est ça. Hein. On a besoin de trouver une raison, un coupable, suicide, d'en vouloir à quelqu'un.
Le suicide est une énigme laissée au vivant. Et au-delà de la personne qui se tue, c'est comme une pierre qu'on envoie dans une rivière avec des ricochets. Il y a le premier cercle de ricochet qui est la famille qui reste avec cette douleur, cette souffrance, cette culpabilité. Et puis qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais dû voir? Le deuxième cercle, c'est souvent le cercle professionnel, les collègues. Et puis c'est le quartier, le village, la ville. Ça interroge tout le monde. Puis ce sera la génération suivante parce que un suicide dans une famille, ça laisse des traces. Oui. C'est très compliqué le suicide. Qui d'entre nous a envie tous les jours de se dire il faut que je sois attentive dans mon environnement aux signes éventuels de suicide? Est-ce qu'on peut vivre comme ça en cherchant le suicide tous les jours chez les gens qu'on aime? On a envie d'être du côté de la vie, du côté des belles choses. Et vous savez, les psychiatres, les psychologues ratent aussi hein, chez leurs patients les signes suicidaires. Donc c'est une énigme complexe. Le visage que vous décrivez de votre père montre que c'est la solution qu'il a trouvée, oui, pour sortir d'une vie qui était trop lourde. Et je crois que le suicide renvoie à la vulnérabilité de l'être humain. La vie peut être très, très compliquée et très lourde quand il y a une accumulation d'événements négatifs. Et sortir d'une vie qu'on n'arrive plus à assumer est une libération. Il ne faut pas l'oublier. C'est vous qui portez le fardeau de l'absence et puis de qu'est-ce que j'aurais pu faire.
Exactement.
Rien, probablement. Qui d'entre nous, tous les jours, peut, si quelqu'un se montre en mauvais état, dire « Bon, alors je te préviens, on va parler suicide, il n'est pas question que tu passes à l'acte. » Vous savez bien que ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est peut-être un peu ce qu'il faudrait faire.
Ah oui?
C'est compliqué.
Et on peut guérir un jour de cette culpabilité où les personnes qui entourent ceux qui un jour se sont suicidés sont un peu condamnées à l'avoir jusqu'à
Moi, je crois que la culpabilité est d'abord un signe d'amour.
Oui.
Vous ne vous sentiriez pas coupable si vous n'aviez pas aimé votre père. Et donc, ça interroge votre capacité à l'avoir aimé correctement. Après, il y a le manque et l'absence.
Oui,
ça, c'est encore autre chose. Je voudrais qu'on revienne.
Ça, c'est le deuil.
Vous m'avez dit, le deuil. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous me dites, moi, j'en ai jamais voulu. C'était son choix. Et même, vous me dites, vous avez dit un truc fou tout à l'heure, vous me dites, je me suis même dit, enfin, il a pensé à lui, il a écouté ce qu'il ressentait vraiment. Est-ce que votre mère et votre frère ont ressenti la même chose, ne lui ont pas voulu, ont compris comme vous avez compris?
Non.
Vous avez tous été très différents.
On a été différents. Ma maman et mon frère sont passés plutôt par la colère.
Il vous a fallu combien de temps avant de réussir à parler à votre maman, à votre frère, et de remettre de l'harmonie dans votre famille après ce drame?
Il nous a fallu un an.
Un an?
Un an.
Vous avez chacun vécu les choses différemment, un peu chacun dans votre coin?
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui a provoqué la conversation au bout d'un an?
Notre maman, en fait, nous avait annoncé qu'elle avait retrouvé aussi quelqu'un. Donc pour nous, ça n'a pas été facile. C'était un petit peu comme si notre papa était parti hier, en fait. Enfin,
c'était trop tôt pour vous.
Voilà.
On l'accueille, votre maman?
Ah, oui,
elle vous écoute attentivement depuis tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. C'est Sylvie. Venez nous rejoindre, Sylvie.
Bonjour Faustine.
Bonjour Sylvie, merci d'accepter de prendre la parole sur le plateau. Je vous ai vue très émue depuis tout à l'heure, parce que vous écoutez votre fille. Ça vous fait quoi quand vous l'écoutez raconter la façon dont elle l'a vécu.
C'était sa fille, donc forcément c'est dur. Moi, c'était mon mari, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai encore beaucoup de mal.
Oui.
Parce qu'on a construit des choses ensemble, on s'est connus. Moi, j'avais 20 ans, donc les enfants avaient grandi, donc on était plus que tous les deux en fait. Et puis on allait être papy et mamie. Mon fils m'avait annoncé en fait qu'il allait avoir un petit garçon, donc on passait une autre étape. On allait être grands-parents, donc on se faisait des projets, on en parlait ensemble. Donc puis d'un seul coup, tout s'écroule forcément. Quand on se met en couple, c'est pour construire des choses ensemble, c'est pour prévoir dans l'avenir et puis vieillir ensemble aussi, parce que voilà, c'était plein de choses. Et puis, ma foi, tout s'est écroulé, quoi.
Quand vous dites « je voulais vieillir ensemble », c'est que vous avez l'impression qu'au-delà d'avoir mis fin à ses jours, il vous a abandonné ?
Moi, pour moi, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que pour moi, en fait, j'ai de la colère, forcément, puisque j'ai l'impression d'avoir été abandonnée. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas pensé à moi, mais en même temps, maintenant, je me dis, en fait, il est soulagé, certainement, et il souffre moins. Et moi, je souffre, on souffre toujours, et puis tout le monde souffre, quoi. On aura beau se dire, il y a des moments aussi, je suis en colère, quand j'arrive pas à faire des choses toute seule à la maison, je lui dis, mais si t'étais là, tu pourrais m'aider, enfin, voilà.
Parce vous pestez contre lui, parfois.
Quand on est en couple, c'est aussi pour ne pas être tout seul, c'est pour quand on a des problèmes.
Affronter la vie, faire
des équipes. Je veux dire que quand je souffre du manque de mon mari, je ne vais pas en parler à mes enfants. Ils souffrent déjà d'avoir perdu leur papa, donc je n'ai pas envie en plus
de
leur inculquer. Voilà, c'est ça, de les protéger. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours.
Et vous avez jamais parlé du suicide, votre mari ?
Non, il ne l'a jamais évoqué. Non, jamais. Non, vous savez, c'est pas quelque chose qu'on aborde.
Mais non.
D'autant plus qu'au mois de janvier, j'avais une cousine qui s'était suicidée, donc on avait été à l'enterrement, et il m'avait dit, c'est dur de faire ça, quoi, pour les membres de leur famille, c'est pas évident. Donc ça, c'était au mois de janvier, et lui, il l'a fait le 24 novembre, quoi, dans la même année. Il aimait pas trop parler de la mort, en fait. Quand on parlait, je disais, mon papa est malade, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il va... Non, il n'en parlait pas.
C'était un sujet tabou.
Ouais, voilà, ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose, ça lui faisait mal. Il ne voulait pas souffrir, en fait. Il se refusait de souffrir. Il refusait le fait de dire qu'il est, il avait... Je pense que l'homme ne veut pas voir qu'il est la faiblesse. Et je pense que ça, il voulait faire voir...
Ce qui est terrible quand je vous entends, c'est en fait d'avancer et de se reconstruire sur cet immense point d'interrogation. Parce que nous, quand vous nous racontez l'histoire de Didier, avec cette jolie famille qu'il avait, cette société difficile, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication en fait. Et non. C'est ça qui est insoutenable, j'imagine, pour vous. C'est on doit avancer sur ce point d'interrogation et nous, on doit se construire une histoire finalement.
Tout à fait, c'est ça.
On doit se donner sa propre explication.
Est-ce que la colère est votre manière de ne pas vous effondrer aussi ?
Oui.
Parce que se mettre en colère contre la personne... Oui. qui a effectué ce geste, c'est une manière de ne pas s'écrouler. Hein.
Ah, complètement, tout à fait, oui. Ah oui, c'est pas évident. Hein. Ça nous poursuit tout le temps, de toute façon, et puis on vit avec, et voilà.
Vous l'aurez toujours en vous, cette colère.
Tout à fait.
Sentez. Oui. Ça se voit même, je sens.
Oui, parce que je pense que, c'est ce que vous disiez, ça m'aide, en fait. Oui. Ça m'aide à me reconstruire, ça m'aide certainement... Après, il y a des moments où, effectivement, même une photo, c'est quand même délicat, j'ai une photo à la maison... Alors, je la regarde, mais furtivement, quoi, je veux dire.
C'est trop doux,
voilà, j'arrive pas à le fixer, quoi. C'est furtif, c'est comme si je disais, attends, non, c'est pas possible, t'es pas figé dans une photo, quoi. Surtout que c'était quelqu'un de très présent. Quand il y avait des problèmes, il trouvait toujours une solution.
C'était le pilier, quoi.
Complètement, oui, tout à fait. Puis moi, en plus, j'avais fait une luxation de l'épaule, donc j'étais mobilisée, j'étais hospitalisée, enfin, j'étais opérée le 4 novembre, j'ai fêté mon anniversaire le 5 novembre, et c'est suicidé le 24 novembre. Alors, c'est vrai que, je me disais, mais tu m'as abandonnée, quoi. Moi, je ne peux pas conduire.
Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, Sylvie ? Vous êtes sentie trahie ?
Pas de trahison, non, parce que je trouve que c'est trop dur, ce mot trahison, non.
Abandonnée.
Enfin, voilà,
c'est le
plutôt de l'abandon que de la trahison. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui. Non, ce n'était pas son mot pour lui, sa trahison, non, du tout.
Quand vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'un a croisé votre route, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a été difficile pour vous de vous avouer que la vie, Catherine nous en parlait, qu'il fallait oser la vie. Catherine nous disait ce mot-là tout à l'heure, cette fois. Il faut oser la vie, il faut oser regarder devant, on a le droit de continuer.
C'est-à-dire que ça s'est fait parce que mon mari avait une assurance et en fait, cette assurance organisait des séminaires de veuvage, en fait, qu'on appelle pour des gens qui ont perdu.
Ah oui.
Oui, c'est très bien fait. Il y a psychologue, il y a psychiatre, ils organisent ça. Et ce qui fait que donc, ça c'était en 2015, en octobre 2015. Au début, je ne voulais pas y aller. C'est les enfants qui ont insisté. Parce que je trouvais que ce n'était pas ma place. Je me suis dit, j'ai 51 ans, donc ça va être plus des gens d'un certain âge. Puis les enfants m'ont dit, si, bon, ça va te faire du bien. Donc j'y suis allée, accompagnée d'une autre personne que je connaissais qui avait perdu son mari. Donc pendant le trajet, on a parlé.
Et puis, bah, on avait la possibilité dans des chambres individuelles ou des chambres à deux. Je me suis dit non, je préférais toute seule parce que s'il faut que j'entende la personne pleurer tout le temps, déjà moi j'ai mon chagrin. Ouais. Et puis bah, c'est bien parce qu'on a rencontré des gens et c'est vrai que le problème c'est que le suicide, j'étais la seule dont le mari s'était suicidé. La plupart, ils étaient tous
endeuillés dans une
et en fait, quand tout le monde, on a passé à table, tout le monde a demandé le parcours de chacun et là je lui dis bah, mon mari est décédé, mais de quoi forcément, puisqu'on pense plus à la maladie qu'au suicide, parce que la mort c'est plus la maladie que le suicide. Ouais. Donc obligée de se justifier, je me suis dit il s'est suicidé et cet ami maintenant avec qui je suis, il m'a dit alors ça c'est plus dur encore. Ça, c'est son mot que j'entends, c'est plus dur encore, parce que forcément, les maladies, on est préparé, on s'y attend, et en fait, bah, c'est vrai que je lui ai dit, bah, il a bien compris quoi, le sujet, c'est quelqu'un qui... Et puis au fil du temps, bah, on a discuté, parce que c'était pendant une semaine que ça se passait, et donc on a discuté, puis après on a communiqué, et depuis, bah, on est ensemble, quoi. Je veux dire, enfin, on n'est pas ensemble parce qu'il habite à 2 heures de chemin de chez moi, mais on se voit le week-end, mais... Voilà, on parle. Enfin, pour moi, je ne me voyais pas refaire ma vie tout de suite parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer non plus. Hein. J'étais pas du tout prête à ça, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Mais on a besoin de parler. Enfin, je veux dire, parler à une personne étrangère, c'est plus facile que de parler à mes enfants. En plus, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme. Donc, je veux dire, au quotidien, on parle de notre conjoint. Je vais chez lui, il y a les photos de sa femme. Il vient chez moi, j'ai les photos de mon mari. Pour moi, c'était plus facile de rencontrer quelqu'un, entre guillemets, divorcé, parce que je n'avais pas du tout le même approche. Quoi. Ouais. Que là, on en parle. Il arrive même parfois, lorsque je pars en vacances, de l'appeler Didier. Donc, il le comprend. Ben oui, parce qu'on est passé, si vous voulez, quand les premières vacances qu'on a passées ensemble, on se dit, tiens, là, on a passé des choses avec mon mari. Donc, forcément, je l'appelle Didier, comme lui, il m'appelle aussi par le prénom de sa femme. Donc, on le comprend mieux. Parce qu'on ne peut pas oublier.
Ça a été difficile de l'annoncer à vos enfants, que vous aviez recroisé le chemin.
Je me suis culpabilisée, forcément, on se culpabilise. Et je me souviens, les enfants, pas longtemps après le décès de mon mari, de Didier, mon fils m'a dit, mais tu sais, maman, il faudra que tu refasses ta vie. Je ne sais pas si tu te souviens, Virginie, ton frère a dit ça. Et sur le coup, lorsqu'il m'a dit ça, je l'ai mal pris. Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas du tout dans ce contexte-là. Quoi,
Oui, j'en suis pas là du tout.
Mais non, pour l'instant, je n'ai même pas encore bien analysé et compris que mon mari n'était plus là et leur père. Et puis, ma foi, bah, en fait, je me suis dit, mais non. Mais ça m'a bien aidée. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, même si je ne suis pas prête de mettre en couple, bah, de vivre au quotidien avec la personne. Parce que pour l'instant, voilà, je suis bien encore toute seule la semaine, j'ai mes repères. Mais c'est vrai que je deviens presque égoïste à vivre toute seule parce que j'ai plus de contraintes, plus personne qui... On n'a plus personne qui contrarie en couple.
Ah bah ça, c'est un autre sujet, mais Sylvie, qu'on aborde souvent dans l'émission.
En couple, on s'engueule, on a au moins quelque chose à se dire. Là, bah, je suis toute seule, alors je deviens presque maniaque parce que bah, pour éviter de penser, je fais quoi ? Du ménage, je range, je fais plein de choses que je ne faisais pas avant. Quoi.
Vous avez ressenti, vous aussi, cette colère, Karine ?
J'ai jamais eu de colère envers mon fils, non. Jamais. La colère, elle s'est dirigée vers les autres, en fait. Ceux qui vivaient, ceux qui avaient leurs enfants, qui partaient en vacances. C'est comme ça, c'était plus fort que moi. Je ressentais de la colère, de la jalousie. Encore un petit peu maintenant.
Vous dites encore un peu maintenant, mais c'est vrai que le départ d'Anthony, c'est très récent.
Ça a fait 1 an et demi la semaine dernière.
Ah oui. Il avait 15 ans, votre garçon.
Il avait 15 ans, oui.
Quel genre de garçon, de jeune homme c'était ?
Très blagueur, très facétieux, toujours en train de faire des combines.
Filou ?
Très filou, ouais, très filou.
Vous avez combien d'enfants ?
J'ai 3 enfants.
Donc un garçon filou, un garçon blagueur.
Voilà, mais à côté de ça, très renfermé, très introverti, très discret. C'était très difficile de savoir qui étaient ses amis. Il ne nous racontait jamais ses journées. Mais ça, c'était depuis petit. Hein.
Vous dites aujourd'hui qu'il avait anticipé son geste ?
Je ne pense pas qu'il l'ait anticipé. Si, peut-être. Je pense qu'il y a pensé avant. Mais que ce soir-là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quoi.
C'était quoi ce soir-là ? Il s'est passé
quoi ? Je ne pense pas qu'on passe à l'acte comme ça en 2 minutes. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qui s'est passé pour nous, ça s'est passé en 2 minutes. Quoi.
Parce que c'est ça, parce que quand on connaît l'histoire, et vous allez nous le raconter, on a le sentiment d'un geste presque impulsif.
Exactement.
Mais je serais curieuse, en effet, que Marie nous apporte son regard. Vous nous dites, tout s'est passé en 2 minutes. Vous nous le racontez, ce qui s'est passé,
oui. Karine ? Donc c'était un dimanche, le dernier dimanche des vacances après Noël, Nouvel An. On avait passé de bonnes vacances, on avait accueilli tous nos amis pour Nouvel An. Le petit copain de Mélina était là, donc ils ont joué, jeux vidéo, tout ça, tout ça. Hein. Le dimanche, bon, tout le monde est reparti, donc nous, on est un petit peu plus relax. Chacun va qu'à ses occupations.
On glande un peu.
C'est le terme précis. Et donc, Anthony dans sa chambre, Mélina un petit peu avec nous, Kaori plus avec nous dans le salon, voilà. Moi, j'étais en période de révision parce que j'avais repris mes études. Donc, c'est vrai que j'étais beaucoup occupée. J'avais repris une semaine avant.
Ouais, ouais.
J'allais passer mes examens. Donc, j'étais très prise. Je préparais mon mémoire, etc., etc. Et voilà, donc le dimanche passe, on grignote ensemble de temps en temps. Vers 16h, je monte dans la chambre d'Anthony. Je lui demande s'il a fait ses devoirs, puisqu'il allait avoir sa semaine de brevet blanc, qui est quand même une étape importante. Il me dit non. Il est honnête, hein, il me dit non. Bah, je lui dis, bah là, il faut arrêter les jeux vidéo et puis il faut faire les devoirs, quoi, parce qu'il faut réviser, là, c'est demain. Hein. D'accord. Je descends, je continue à faire ce que je fais. Et il descend vers 21h, ça je m'en rappelle, puisque le film allait commencer. Et je lui dis, alors, tu as bien révisé? Et très honnêtement, il me dit, non, j'étais sur les jeux vidéo. Et du coup, on se fâche, quoi, avec mon mari, on se fâche. On lui dit, mais pense à ton brevet, c'est ton avenir, c'est ton... Enfin, voilà, on se fâche, il n'a pas fait ses devoirs. On réagit, je pense, comme tous les parents, on s'emporte, voilà. Il se met à pleurer, parce qu'Anthony, c'est un hypersensible. Il se met à pleurer, il monte. Il se passe même pas 2 minutes, je vous dis, le film n'a pas commencé. Et on entend un gros boum. Moi, mon instant de maman, il me dit tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas, je pars, je monte. Ma petite fille dormait en face de la salle de bain. Sa porte était fermée. Je regarde, elle dort. La porte de la salle de bain est fermée. Je dis, Anthony, ça ne répond pas. Je tape, il s'est enfermé à clé. Je tape, ça ne répond pas. Là, mon mari et Mélina montent. On déverrouille la porte avec un couteau et on le trouve au sol. Il s'est tiré une balle dans la tête avec l'arme de service de mon mari. Voilà. Ça s'est passé en 2 minutes. Une fraction, c'est rien, une 2 minutes.
En même temps, vous vous doutez bien que les 2 minutes en question signent ce qu'on appelle un raptus suicidaire. 2 minutes avant, peut-être qu'il n'y pensait pas. Et à ce moment-là, ça lui apparaît comme la solution.
Voilà, je pense que c'était un trop-plein. Voilà, le ton est monté entre nous.
Mais ça n'a pas forcément à voir avec ce qui s'est passé ce soir-là. C'est même probablement dans la tête de votre fils un processus tout à fait inconscient de difficultés comme on en a quand on a 15 ans. Et que c'est compliqué. Alors pour vous, ce qui doit rester gravé, bien sûr, c'est l'histoire des devoirs pas faits et l'engueulade parentale. Mais je peux vous assurer qu'à cet âge-là, le passage à l'acte, pour sortir d'une situation qu'on juge inextricable, ça peut se décider en 2 secondes, surtout si malheureusement, il y a ce qu'il faut à la maison. Mais s'il n'y avait pas eu l'arme de votre mari, ça aurait été par la fenêtre ou une autre solution.
Alors, le moyen, c'est une chose. Peut-être des gens s'attachent aux moyens utilisés. Moi, dans mon cas, non. Parce que sinon, j'en voudrais à mon mari. Déjà, je serais très en colère contre lui, mais pas du tout. Parce que je reste persuadée que, de toute façon, c'est un acte qui a été décidé. Et qu'il avait déjà pensé, et que voilà, le moyen, c'est qu'il y a toujours une fenêtre pour se jeter. S'il n'y a pas une corde, voilà, il y a des témoignages de gens qui disent que l'enfant ou la personne s'est pendue à une porte. Donc, quand l'acte est décidé, je ne sais pas si je peux employer ce terme de décidé, je pense que de toute façon, on trouve le nécessaire pour passer à l'acte.
On trouve toujours le moyen, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais encore une fois, il faut que vous vous disiez, je sais que c'est compliqué quand on est dans une logique dite normale, que ce raptus suicidaire, il est plus puissant que toutes les défenses en place, que toutes les religions, que tout l'amour qu'une famille peut porter. Tout d'un coup, cette envie de mourir devient impérieuse. Et donc, il faut la réaliser, cette envie de mourir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de figure de votre père qui semble avoir traversé une période de véritable construction de son départ. À 15 ans, c'est la forme de suicide, tristement, la plus courante. N'imaginez pas non plus que votre fils a peut-être ruminé pendant des semaines ce qu'il prévoyait. tous ces mécanismes sont très inconscients dans la tête de la personne qui a décidé d'en finir. Hein. Ça renvoie véritablement à la structure de la personnalité à cet âge-là.
Oui.
On est fragile à 15 ans.
Mais alors comment on fait, parents de 15 ans, pour...
Comment on fait pour à la fois préparer ses enfants à la vie, aux études, aux amours, à tout ce qu'ils vont vivre de positif, en gardant dans la tête, encore une fois, que ce risque suicidaire peut être très présent. C'est bien pour ça qu'il y a autant de suicides. C'est parce que c'est pas vivable, une vie où on aurait en tête ça tous les jours.
Mais il faut en parler avec eux. Mais en même temps, nous, on se dit, les parents se disent, si on en parle, on va lui donner l'idée.
C'est vrai.
Donc on ne sait pas quoi faire.
Ce qui n'est pas vrai. Peut-être que c'est le premier tabou qu'on peut lever. Ça n'est pas parce qu'on parle du suicide qu'on donne envie à qui que ce soit. Au contraire, dire tu es dans une période où tout prend une ampleur tellement colossale que quelquefois on pense à en finir, n'oublie pas que ta vie va être longue et que tu auras plein d'occasions de dépasser les difficultés, qu'on est là pour t'aider et que tu as notre amour et notre soutien. Ça peut être dit à froid aussi, et pas simplement quand il y a des petits indices et qu'on commence à s'inquiéter. Je sais que c'est compliqué de se dire ça.
Il faut savoir en parler.
Mais il faut savoir
par même à l'occasion un jour d'un dîner familial hors contexte, il faut savoir.
Il n'y a pas de famille épargnée, c'est cela qu'il faut vous dire. Mm. Cela touche absolument tout le monde. 200 000 tentatives de suicide par an. Ce n'est pas un petit phénomène. Mm. Cela fait partie, tristement, de la condition humaine d'avoir, par moment, sur des périodes ou bien brutalement, en quelques secondes, le besoin impérieux de sortir de quelque chose qu'on n'arrive pas à affronter. Contrôler. Alors après, c'est affreux pour ceux qui restent, bien évidemment. Oui.
Alors, est-ce que vous avez été bien entourée après, dans les semaines qui ont suivi? Parce qu'il faut trouver la force de reprendre sa vie derrière, même un an et demi plus tard.
Alors, dans mon malheur, oui, nous avons de la chance. C'est que nous sommes une famille très soudée. Donc, déjà, ma sœur est venue s'installer avec nous. Ensuite, la famille est venue. Et surtout, les collègues de mon mari nous ont beaucoup, beaucoup soutenus. Ils nous ont portés, en fait, très concrètement. Ensuite, il y a le soutien... parce que là, nous, on est sur du post-traumatique, en fait,
bien sûr.
Au début plus, puisqu'on a vécu quasiment le suicide, pas en direct, mais...
Oui, je sais, à côté de lui.
On a tout de suite retrouvé le corps, ensuite, on a appelé les pompiers, on a vécu toute la nuit, tous ensemble, avec mes filles et mon mari. Dans notre malheur, ce qui me soulage un petit peu, c'est qu'il n'est pas parti tout seul. Voilà, il est parti dans les bras de mon mari. Je pense que c'est important pour nous, même si pour mon mari, c'est difficile. C'est celui de nous qui en parle le moins, d'ailleurs, et qui se sent le plus coupable aujourd'hui. Il n'y a aucun dialogue, on ne peut pas ouvrir le dialogue avec lui. Il stoppe direct.
Ah ouais ?
Oui.
Vous n'arrivez pas du tout à en parler ?
Non.
Comment il vit le fait que vous veniez en parler, vous, aujourd'hui, ici ?
Il me dit juste que si ça me fait du bien, alors il me soutient. Voilà.
Et lui, il n'en parle pas.
Mais lui, il n'en parle pas.
Ça vous fait peur qu'il ne parle pas, parfois?
Ah, je m'inquiète pour lui, oui, bien sûr. Parce que je sais ce que c'est de ne pas parler. Moi-même, je le sens. Que tout garder à l'intérieur, ce n'est pas bon du tout. Il y a des moments où moi, je perds pied, quoi. Je me sens glissée. Il n'y a pas très longtemps de ça, je me suis même mise à chercher des cliniques pour me faire interner, parce que j'étais vraiment en train de perdre pied. Et là, en fait, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, c'est soit tu continues à te taire, et tu te perds toi-même, et tu vas aller dans des endroits de toi-même où tu n'as peut-être pas envie d'aller, ou soit, alors là, il faut commencer à parler.
Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Évidemment, il n'y a aucune raison que vous ressentiez ça. Néanmoins, je sais à quel point la nature humaine est parfois complexe. Est-ce que c'est compliqué de le dire à l'extérieur? Est-ce que parfois, on a honte?
Oui.
Vous avez compris ce que je veux dire.
Très concrètement, oui. Honte, je ne sais pas si c'est le terme précis. Honte. En tout cas, on n'utilise pas les termes... on dit « j'ai perdu mon fils ».
On ne dit pas.
On ne dit pas la suite. Parce qu'on sait que la personne, si on lui dit, elle va couper court à la discussion ou le regard va changer.
Ah oui.
Même dans le corps médical, une fois, on m'a posé la question... parce qu'on développe aussi des problèmes de santé, du coup. Hein.
Ouais.
Et on m'a posé la question, vous avez eu quelque chose, un traumatisme? Et donc j'explique, j'ai perdu mon fils. Ah, comment? Vous l'avez perdu en couche? Non. Il était malade? Non. il a mis fin à ses jours. Et fin de la discussion. Voilà.
Alors que vous auriez envie d'entendre quoi?
Alors que, vous auriez besoin, si je commence à m'ouvrir, bah, peut-être que ça me ferait du bien de...
D'en parler, oui.
D'en parler, quoi. Non, non, il y a vraiment ce tabou, on ne peut pas le dire. Tabou, et ouais. Même nous, voilà, moi, le terme de suicide, ça fait très peu de temps que je l'utilise.
Vous disiez quoi avant?
Je disais, il a mis fin à ses jours.
Parce que le mot,
dans le fond,
pas.
C'est la même chose.
Mais le terme...
Le mot suicide ouais, est violent, quoi. Il est violent, il est brutal.
Et il est tabou.
Et il est tabou.
Ouais. Vous avez un petit tatouage, vous avez des tatouages sur les mains. Vous pouvez me raconter leur histoire?
Celui-ci?
Ah oui.
Alors celui-ci, c'est une Américaine qui se l'est fait tatouer il y a 6 ans, parce qu'elle avait perdu son papa par suicide. Elle se l'est fait tatouer pour dire que la phrase n'était pas terminée, qu'elle avait encore des choses à écrire.
Là, c'est un point virgule.
C'est un point virgule. Aujourd'hui, il a été repris donc, par les personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide, mais aussi qui luttent contre des maladies... comme la dépression, l'anorexie. Et moi, je me suis fait tatouer il n'y a pas très longtemps pour mon anniversaire, parce que déjà, j'ai perdu quelqu'un par suicide, parce que je lutte aussi contre un état dépressif aujourd'hui.
Bien sûr.
Et parce que la vie continue et que j'ai encore des choses à écrire.
Bien sûr, vous avez des choses à écrire.
Voilà.
Il y a quand même 2 tabous dans votre histoire, hein. Une mort par suicide et la perte d'un enfant.
Oui.
Et la perte d'un enfant est un tabou majeur dans notre société qui déclenche la paralysie
parce
chez les gens.
Parce qu'il n'y a rien de pire.
Parce que c'est la pire des épreuves, bien évidemment.
C'est ça.
Vous avez prononcé le mot interné. Vous auriez pu passer un petit peu de temps dans une clinique pour tenter d'émerger par un épisode comme ça, une parenthèse. Le mot internement est un mot un peu fort.
Oui, mais...
Il y a les autres filles, il y a les enfants et les autres enfants.
Voilà. Bah déjà, oui, ce qui m'a complètement... Je me suis dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas les laisser, mes filles.
Mais non.
Je ne peux pas les laisser. Parce que c'est pour elles aussi, enfin, c'est pour elles et pour moi, hein, que je continue le combat, que je ne me laisse pas aller. Si elles n'étaient pas là, je ne sais pas honnêtement où je serais, moi. Parce que... Avec la perte de mon fils, c'est... Je me suis dit plein de fois à quoi ça rime, cette vie. C'est quoi le sens de la vie? C'est ça? J'ai un grand sentiment d'injustice. Je me dis, quelle mauvaise personne, quelle mauvaise mère je dois être. Mais à côté de ça, j'ai 2 filles. Et elles méritent. J'ai perdu un fils, oui, j'ai peut-être le droit de me laisser aller. Parce que... Ou d'être... pleine de chagrin parce que j'ai perdu un fils. Mais à côté de ça, j'ai 2 filles. Elles sont là. Elles sont là. Elles vivent la même chose que moi. Alors, elles méritent d'avoir une mère. Elles méritent d'avoir quelqu'un qui se bat à leur côté, qui avance avec elles. Et c'est pour ça que chaque jour, depuis le début, je lutte.
Est-ce que vous arrivez à vous dire que la partie de vous qui aimait votre fils est à terre, mais que la partie de vous qui aime ses 2 filles est debout?
C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Elles sont mon moteur. Elles sont ma force.
T'as fait quoi d'entendre tout ça, Mélina? Elle est forte, ta maman, aussi. Hein. Pour toi, hein. Par amour pour toi. Hein.
Ouais, mais c'est des choses qu'elle a jamais dit. Et de... En fait, je me sentais coupable d'avoir pensé la même chose. D'avoir pensé pourquoi je continue à vivre. Pourquoi je suis là, à quoi ça sert. Et d'entendre que, finalement... Elle a pensé la même chose alors qu'on ne se l'est jamais dit. Ben, je me trouve moins horrible, du coup. Elle me dit... Mais en fait, tout le monde pense la même chose, quoi. Enfin,
forcément.
Moi, j'avais plus envie. J'étais là sans être là. C'était une vie robot, en fait. Je faisais ce qu'il y avait à faire parce qu'il fallait le faire. Mais je ne comprenais pas. Enfin, je ne faisais plus rien pour moi, en fait. Pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Mais on sait, ça fait quoi de perdre quelqu'un? J'allais pas laisser mes parents, j'allais pas laisser ma mère, j'allais pas laisser mon copain, j'allais... En fait, c'était vivre pour tout le monde, mais pas pour soi, en fait. C'est tout.
Est-ce que c'est plus facile quand c'est mis en commun, comme ça? Quand vous comprenez que votre mère traverse la même chose que vous?
C'est pas plus facile, parce que...
Oui, la douleur est là quand même.
Voilà.
Pas sur la douleur, mais sur la possibilité de retisser cette famille Parce que là, il y a un trou dans le tissu, il y a une déchirure.
C'est une famille brisée et il y a tout à reconstruire. Ça nous rapproche. Je ne vais pas dire que ça nous rapproche davantage d'avoir vécu ça ensemble et que nos liens sont plus forts, nos liens sont différents. Ça a créé un nouveau lien, en fait.
Oui, c'est un séisme. C'est un séisme. Oui.
Tu en parles, toi, facilement, Mélina ?
Ah non.
Non. T'en parles jamais ?
Jamais. Et si on vient sur le sujet, c'est l'évitement. Ça fait trop mal.
Mais t'acceptes quand même d'être là aujourd'hui ?
Parce que c'était inconcevable que maman vienne toute seule. C'était hors de question.
Oui, quand on parle de reconstruction familiale...
C'est que chacun est là pour l'autre, en fait. Vous êtes tous
des fois, il y a des inversions. C'est-à-dire que mes filles ont tendance, parfois, quand je ne peux pas, surtout au début, à prendre la place de maman et de m'infantiliser.
À vous materner un peu.
Voilà.
Et quand on te demande de parler de ta famille, est-ce que tu oses dire un mot, toi, sur ce qui est arrivé à ton frère ? Est-ce que tu arrives à dire des mots ? Tu le dis dehors, parfois ? À l'extérieur ?
C'est pas un mot que j'emploie, c'est pas...
Tu dis quoi ? Qu'il y a eu un accident ?
Alors, le problème, c'est que moi, ce soir-là, j'ai tout mal interprété. Parce que moi, tout le long de la soirée, ça a été un accident. Et que ce mot, il est sorti quand j'ai accompagné ma mère à l'hôpital, en fait. Parce que maman, elle n'était plus là, elle était absente. Et c'est hors de question qu'elle aille à l'hôpital toute seule, donc je l'ai accompagnée. Et c'est seulement une fois à l'hôpital... que j'ai entendu ce mot. Parce que tout le long de la soirée, tout ce moment d'attente, c'était un accident. Et du coup...
C'est ce que t'as cru, en fait.
C'est ce que j'ai cru et c'est ce que j'ai assimilé. Et ça a été super compliqué pour moi après, et même encore aujourd'hui, des fois, de me dire que c'est un suicide. C'est... Parce que pour moi, c'était pas mon frère, en fait. C'était pas possible. Je comprenais pas. Et c'est ça le plus dur, c'est de ne pas avoir d'explication, en fait, au final. Moi, j'ai pas d'explication et du coup, c'est plus facile pour mon cerveau de me dire que c'est un accident qu'autre chose. Et comme pendant plusieurs heures, c'était ça. Hein. Pendant plusieurs heures, j'ai compris que c'était un accident. Et puis d'un coup, un mot, un seul mot qui change tout. Et on se refait toute la soirée. On essaye de revoir les mots qui ont été dits pendant la soirée par les pompiers, par toutes les personnes qui étaient là. On se refait tout. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi je l'ai pas compris ?
Et... Est-ce que vous avez enquêté derrière pour essayer de donner des explications ?
Moi, j'ai accepté le mystère autour du suicide.
Alors que pas Méline ?
Non.
Toi, t'as besoin de comprendre, Méline.
Moi, surtout qu'on a subi, nous aussi, les ragots, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire à une famille qui perd ? Qu'est-ce que vous avez
subi ? Que mon fils était un enfant battu. Voilà. Oh. Donc, quand on est déjà au fond du trou et que les gens disent ça... même si on sait que c'est pas vrai, nous tous,
l'ignominie.
Même si on sait que c'est pas vrai, ça nous blesse encore plus.
Bien sûr. Mais les gens sont comme vous, ils cherchent une explication.
Comme nous, en fin de compte, comme nous.
C'est très compliqué.
Quelque part, ma colère vis-à-vis d'eux, elle est passée. Je l'ai eu sur le coup, mais elle est passée. Parce que je comprends, comme nous, ils cherchent une raison.
C'est très compliqué d'être dans la rationalité des gens qui sont dans la vie et qui vont bien. Et d'essayer de comprendre la rationalité de quelqu'un qui fait un raptus suicidaire, qui n'est pas la vôtre, qui ne sera jamais la vôtre. Vous ne pourrez jamais comprendre ce qui a traversé l'esprit de votre frère et de votre fils, parce que c'est de l'ordre du pathologique à ce moment-là et de l'irrépressible. Et quand on va bien, c'est incompréhensible. La vie est ce qui est chevillé au corps, qui est le bien le plus précieux, et remettre ça en cause... Retourner contre soi une telle violence, au-delà du suicide, vous êtes tous, toutes, confrontés à du post-traumatique. C'est quand même voir un cadavre sanglant, c'est des images très précises avec lesquelles il faut faire, et ça fait pas longtemps, et il y a encore du chemin, et il y a encore beaucoup de larmes à verser.
Mais des larmes qu'on retient trop, justement.
Oui.
Qu'on retient trop. Chaque matin... on met un masque et on avance. Ça
fait du bien de parler, là ?
Oui.
Et d'être entouré de personnes qui comprennent ?
Oui.
C'est assez important.
Et c'est assez instinctif, mais les gens qui ont vécu la même chose que nous...
Il y a un lien.
Il y a un lien.
Voilà. Un lien invisible entre vous,
exactement.
Je le ressens.
Oui.
Il n'y a que vous qui pouvez comprendre, en fait.
Je le souhaite à personne de le comprendre, en tout cas.
Non, mais vous allez aider certains à la maison qui, eux, se sentent peut-être très seuls sur un canapé et qui vont sentir ce même lien qui vous unit tous, cette incompréhension, cette culpabilité.
Et je l'espère sincèrement parce que s'exposer comme ça, pour nous, c'est très difficile.
Oh, ben
aussi.
Ouais.
Ah, oui. Ah oui, c'est...
Est-ce que tu arrives à avancer, la jeune femme que tu es?
En fait, j'ai l'impression que je fais du surplace. Mais quelque part, moi, je suis suivie par une psy. Ma psy, je devais la voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines au début. Parce que si je la voyais pas, j'allais pas bien. Fallait que je la voie. Alors que maintenant, et je pense que c'est une preuve de mon avancement, j'arrive à la voir seulement toutes les deux, trois semaines, tous les mois. Mais c'est la seule preuve que j'ai de mon avancement parce que moi, j'ai l'impression que je fais du surplace. J'ai l'impression que... Ouais, je suis... Oui, bien sûr, j'ai avancé. Je ne suis pas dans le même état d'esprit que la semaine suivante, le mois d'après, mais j'ai l'impression que je fais du surplace.
C'était il y a un an et demi, hein. C'est tellement tôt.
C'est rien. Tellement tôt. C'est rien, un an et demi.
C'est rien du tout, un an et demi.
C'est tout hier. Frais. C'était hier. Il faut du temps, beaucoup de temps. Mais il faut surtout régler deux choses. D'abord, la perte d'un frère, et puis la perte comme ça, par cette violence retournée contre lui. Ça fait beaucoup, beaucoup d'énigmes à régler. Beaucoup.
Catherine, vous vous reconnaissez évidemment dans toutes ces histoires.
Oui, bien sûr.
C'était il y a combien de temps, la disparition d'Amandine?
Il y a 2 ans, ça a fait 2 ans la semaine dernière.
C'est récent encore, hein?
Oui, c'est récent.
Vous reconnaissez dans... Qu'est-ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure qui a fait écho à votre propre histoire, Catherine?
Ben, beaucoup l'histoire de Karine, bien sûr, puisque c'est un enfant qu'elle a perdu.
Oui.
Et que c'est une douleur très particulière, c'est une perte très particulière qui n'a pas de sens. On n'est pas fait pour enterrer nos enfants. Nos enfants, ils sont porteurs de nos espoirs. On leur donne la vie pour leur donner, enfin, voilà, leur donner une suite, leur donner de l'amour.
Elle avait quel âge, Amandine?
Amandine avait 31 ans.
Quel genre de jeune femme c'était?
Très altruiste, elle était enseignante.
Oui. Elle avait quelqu'un dans sa vie?
Non, Amandine n'avait personne dans sa vie et n'avait jamais eu personne dans sa vie.
Oui.
Finalement, et c'était une faille en elle qu'on ne s'expliquait pas à tel point que moi, j'avais abordé la question de l'homosexualité avec Amandine quand elle s'étonnait de ne pas pouvoir faire confiance à un garçon, de ne pas pouvoir passer le cap du flirt. Je lui avais dit, Amandine, tu sais, faut que tu saches que si ton bonheur, tu le trouves auprès d'une femme, nous, ça ne nous pose aucun souci. Je me suis dit, c'est peut-être ça, elle n'ose peut-être pas le dire.
Ouais.
Mais en fait, c'était pas ça. C'était lié à son histoire. Et Amandine, elle était très enjouée, très... Voilà, très gaie, très souriante. Sur toutes les photos, elle est extrêmement souriante, elle est très belle.
Donc une jeune femme gaie, joyeuse, mais avec une énorme blessure en elle qu'elle avait enfouie pendant des années. C'était quoi, ce passé si lourd à porter pour Amandine?
Amandine, en fait, a été victime d'une levée d'amnésie traumatique parce qu'elle avait été violée lorsqu'elle avait l'âge de 3-4 ans. Et... Bah, finalement, pour survivre, elle avait emmuré cet événement-là. Nous, on ne l'avait jamais su. Elle s'est construite avec ça, enfouie. Et finalement, au décès de mon père, ça a explosé. Elle est tombée dans une dépression extrêmement importante,
oui.
Avec des flashs, avec des réminiscences, des impressions... Et puis des tocs qui se sont vite installés, de se laver tout le temps. Amandine, elle n'était plus en état de s'occuper d'elle-même. Donc je lui faisais ses repas, je faisais les courses, le ménage, le linge. Donc le matin, je passais, j'accrochais les boîtes tupperware avec le repas pour la journée. Je repassais le soir. Et le soir, avant de se coucher, elle m'appelait. C'était le rituel, elle m'appelait, alors que parfois on s'était quittés depuis une heure. Et ce soir-là, elle ne l'a pas fait.
Elle ne vous a pas appelé ce soir-là?
Non, ce soir-là, elle...
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Comme d'habitude, j'ai acheté des petites brioches. On s'est installé dans son petit jardin, on a pris notre goûter, voilà. Et puis Amandine était assez fermée ce jour-là, et puis elle me dit « oui, j'ai eu une crise de migraine cet après-midi. Donc dès que tu vas être partie, je vais me coucher. Donc ce soir, je ne t'appellerai pas, t'inquiète pas, je ne t'appellerai pas. » Et ce soir-là, moi je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et ce soir-là, j'étais très agitée. J'ai fait plein de choses dans ma maison. Mon mari, lui, travaillait de nuit. Donc j'ai fait plein de choses dans ma maison. Et moi, je suis intimement persuadée qu'au moment où je me suis arrêtée, c'est au moment où Amandine s'est suicidée. Parce que sur son portable, on a vu qu'elle avait raccroché à son amie, une de ses amies, à 23h50. Et on sait, pour l'avoir découvert, que c'est très peu de temps après qu'elle s'est suicidée.
Comment vous avez été prévenue, Catherine ?
Moi, j'étais au travail. Mon mari sortait de sa nuit. Hein, il est infirmier aussi. Il était à la maison et ce sont les policiers qui sont consonnés à la porte. Mon mari était en train de bricoler dans le jardin. Et il a vu un gyrophare au-dessus de la haie. Il n'a pas trop compris. Quand les policiers ont sonné, il s'est dit « Oh, si ça se trouve, j'ai fait une faute de conduite, un excès de vitesse. » Et ils viennent me voir pour ça. Et en fait, c'est lui qui a eu la nouvelle en premier. Il paraît que ça a été atroce, qu'il a hurlé dans le jardin. Hurler parce qu'en plus, c'était notre fille dont il était la plus proche. Elle lui ressemblait beaucoup physiquement. Ils faisaient du sport ensemble, ils allaient au stade de foot ensemble. Amandine adorait son père. Et moi, j'étais prévenue au téléphone, j'étais au travail. J'étais dans le vestiaire, j'allais descendre au self de l'hôpital. Et c'est la cadre d'anesthésie qui a eu le coup de fil et qui m'a passé, en fait, les policiers. Et c'est eux qui me l'ont annoncé. Moi, j'ai pas compris au départ. Ils m'ont dit, oui, votre fille a été trouvée. Et moi, j'ai cru que le SMUR allait arriver. Le SAMU allait venir et qu'on m'appelait en fait parce que je travaillais dans l'hôpital où on allait l'amener.
Est-ce qu'elle avait pris des médicaments, votre fille ?
Pardon ?
Elle a pris des médicaments, votre fille, c'est ça.
Et je me suis dit, ils me préviennent pour me dire le SMUR amène votre fille, oui, elle a fait une tentative de suicide. Et ils m'ont dit, mais non, madame, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et je me suis assise, je me souviens, je me suis assise. J'ai pas crié, j'ai même pas pleuré. Et je me suis dit, elle l'a fait. Et après, j'avais mes collègues autour de moi. Et j'ai fait que parler d'elle. De murmurer. Je crois que je sais plus que murmurer. Et ensuite, j'ai pensé qu'à mon mari. J'ai dit aux policiers, surtout ne le laissez pas. Ne le laissez pas tout seul à la maison. J'ai envoyé quelqu'un chercher. En fait, c'est Claudine, notre cadre, enfin, qui est allée chercher chez nous, qui l'a emmenée vers moi. Finalement, après, je me suis tout de suite, j'ai tout de suite pensé qu'à mon mari et à mes autres filles. Je me suis dit, mais comment je vais annoncer ça à mes autres filles ? Comment je vais annoncer ça à ses sœurs ? Mais qu'elle adorait plus que tout. C'était un trio. D'ailleurs, dans notre quartier, tout le monde disait, on voit l'une, on voit l'autre, on voit la troisième. En plus, j'ai une fille handicapée. Et Amandine s'est beaucoup occupée de sa sœur. Enfin, elles étaient solidaires les unes envers les autres. Elles ont fait leurs études. aux mêmes endroits pour être ensemble, pour accompagner leur sœur handicapée qui elle-même faisait ses études. Enfin,
elle avait laissé une lettre, Amandine ? Elle avait expliqué son geste ?
Alors, Amandine, elle a laissé une lettre où surtout elle demande pardon.
Oui.
Elle dit, j'espère que vous me pardonnerez un jour. Et moi, ça, j'ai pas compris.
Pourquoi ?
Moi, j'ai jamais senti que j'avais besoin de pardonner quelque chose à Amandine. Moi, j'ai...
Vous lui en voulez pas du tout ?
Du tout. Du premier instant. Parce que Amandine, pour moi, elle s'est suicidée le seul matin où elle savait que j'allais pas la trouver. Que c'est pas moi qui la trouverais, parce que l'après-midi même, on avait rendez-vous avec une association d'aide aux victimes pour son dépôt de plainte, puisqu'on n'était pas dans le... On était dans les délais où les actes n'étaient pas prescrits. Donc, elle savait que je ne la trouverais pas. Elle était venue passer 10 jours à la maison, 15 jours auparavant, 10 jours qu'elle nous a offerts. Alors...
Pour vous, elle y pensait déjà ?
Avec le recul, je sais très bien... D'abord, on a des preuves que sa décision, elle était prise. Elle avait accumulé des médicaments pendant 3 mois, des morphiniques.
Elle avait prévu.
C'est pas un geste, voilà, c'est pas un geste.
Elle avait prévu, elle avait...
Elle avait tout organisé. D'ailleurs, ça ressemble très bien à Amandine, hein. Tout organisé. Parce que, effectivement, le traumatisme de son enfance, il a énormément pesé. Il est la cause, entre guillemets, une des causes. Mais tous les enfants qu'on subit, ce qu'elle a subi, se suicident pas. Après, il y a ce qu'on est soi-même.
Beaucoup se suicident.
Beaucoup
d'enfants abusés dans l'enfance se suicident.
Je sais bien. Et ils
souffrent. Ou en tout cas, font des dépressions majeures et sont dans des états post-traumatiques terribles.
Et il y avait cette... aussi ce tempérament qu'avait Amandine, qui était quelqu'un d'idéaliste, qui négociait pas avec les choses, qui, quand elle avait décidé quelque chose, était très jusqu'au-boutiste. Et voilà, c'est la conjonction de tout ça.
Et votre mari, il a réagi comme vous ? Il lui en a pas voulu ?
Mon mari, s'il a beaucoup voulu à Amandine, mon mari, il est encore... Moi, je souffre énormément de la perte de ma fille. Je pense que c'est une souffrance qui... Je ne sais pas si même elle s'apaise un peu à un moment donné. Je ne suis pas sûre que le temps, ce soit un allié pour moi. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que ce temps, il faut que je lui donne un sens. Parce que sinon, autant que je fasse la même chose qu'Amandine. Et je ne dis pas que je n'y ai pas pensé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui perdent un enfant, qui ont pensé, et moi aussi. J'y ai pensé même très fort, et même il n'y a pas si longtemps, le jour de la fête des mères, où je suis allée fêter la fête des mères avec ma propre mère, qui a 88 ans, et où on a voulu, c'est moi qui avais eu l'idée, rassembler mes frères et sœurs pour qu'on fête à la fois la fête des mères à notre mère et son anniversaire. Et ma mère habite au 6e étage. Et cette journée, mais ça a été une journée de lutte, heure après heure. Je ne sais pas si j'ai autant eu cette idée depuis le décès d'Amandine que ce jour-là. Mais Amandine, elle nous a offert ce temps où elle était souriante, où je l'ai retrouvée, où je lui disais, Amandine, tu vois, tu t'es battue, maintenant on va aller sur le terrain judiciaire, c'est ce qu'Amandine souhaitait. Et t'as traversé ça, mais je suis fière de toi, je suis heureuse pour toi, je suis contente de partager ces moments avec toi. Et moi, je le ressens comme un ultime cadeau de sa part, comme une ultime marque d'amour de sa part. Et son papa, il ressent ça comme qu'elle nous ait menti, qu'elle nous ait trompé.
Il est toujours en colère aujourd'hui ?
Il est toujours en colère, et comme on n'exprime pas nos sentiments pareils, pour moi c'est difficile d'entendre de la colère contre ma fille.
Oui, je comprends. Donc ça vous divise un peu.
Oui, ça nous... En tout cas, et pourtant, moi, je sais sa souffrance et je lui dis ta souffrance, ta peine, ta difficulté, je la comprends et je peux la vivre avec toi, mais la colère, pour moi, c'est difficile.
Et n'attaque pas ma fille devant moi, c'est ça aussi.
Oui.
Parce que vous êtes toujours sa maman, même si elle n'est plus là.
Et oui. Je suis toujours sa maman. J'essaye de faire des choses qui lui soient fidèles, qui soient des belles choses. J'ai beaucoup de rituels avec Amandine. Nous allons beaucoup au cimetière. La tombe d'Amandine est une explosion de couleurs. Elle est très, très gaie. Et ça, c'est pour mes filles, parce que c'est très important pour elles que la tombe de leur fille soit, entre guillemets, vivante.
Je comprends.
Donc moi, j'essaye d'être sur ce chemin-là. Et ce chemin, c'est à la fois un chemin très intime et c'est aussi un chemin où on fait des belles rencontres et où on se rend compte aussi de qui nous entoure. Moi, nous avons repris le travail 3 mois après. Nous travaillons au même endroit, donc dans un service qui devait nous accueillir tous les deux, tellement désespérés encore. Et il y a parmi nos collègues des collègues qui ont eu des gestes très forts et qui ont encore des gestes très forts. On a été beaucoup protégés par nos collègues de travail. Et ça, je voulais les remercier aussi. Et très rapidement, moi, je me suis dit, je ne me sortirais pas de ce deuil toute seule. Et je me suis rapprochée de l'association Phare qui accompagne des parents dont l'enfant s'est suicidé à travers des groupes de parole, qui a un gros travail de prévention aussi. Mais ces groupes de parole, c'est, bah, comme vous disiez, un ressenti d'appartenance. C'est aussi lever la culpabilité parce que si j'accorde à Karine le fait qu'elle soit une bonne maman, que non, son fils ne s'est pas senti mal aimé ou désaimé, je me dis qu'à un moment donné, je peux me dire aussi que moi non plus, je n'ai pas été une mauvaise maman. Et qu'Amandine ne s'est pas sentie... Et il y a une espèce de résonance dans ces groupes de parole qui fait qu'en accordant à l'autre, on s'accorde aussi à soi une image un peu meilleure.
J'ai rien d'autre à rajouter. Et en tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir devant moi des mamans, des sœurs, des filles, des épouses très, 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 très fortes. Merci d'avoir transmis cette force à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, qui ont peut-être l'impression d'en être démunis. Je suis persuadée que vous les avez aidés. Et j'ai senti cette communion entre vous qui était très, très émouvante. Et on a écouté chacune de vos paroles et chacun de vos mots. MAUX aussi. Merci de nous avoir fait confiance. Je sais que c'était très dur.
Je voulais juste rajouter que moi, je voulais dire à mes filles de sur Terre et à ma fille du ciel que je les aime plus que tout. Et à mon mari, que voilà, ça fait 35 ans que je lui ai dit qu'on vivrait tout ensemble et que même ça, je suis prête à le vivre avec lui.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit?
Non, je trouve que Catherine clôture bien. Oui. C'est également ce qu'on veut dire. C'est que, de toute façon, on a quelqu'un au ciel qui fait partie de nous, intégrante, et que ceux qui sont sur Terre avec nous, nos enfants, nos époux, nos mamans, nos frères, nos sœurs, qui nous soutiennent et qui vivent la même chose avec nous, ben, ils comptent. Voilà. Ils comptent, ils sont importants et on avance ensemble. Et ensemble avec ceux qui vivent la même chose que nous aussi, on avance ensemble.
Oui.
On n'a rien à rajouter, Marie.
Tout est dit.
Merci beaucoup, merci infiniment, merci à tous. Merci beaucoup
pour votre présence.
Merci. Vraiment. Restez avec nous sur France 2. de la retrouver Daphné et toute sa bande dans un instant. On respire, on réfléchit, on prend le temps, on avance, on parle tous les jours. Merci à tous. À demain.
Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vos enfants et les enfants de votre nouveau conjoint ne s'entendent pas du tout. Cette mauvaise ambiance pèse sur votre couple. Dans la nouvelle famille recomposée que vous formez, chacun a mis du temps à trouver sa place. Pour une autre émission, vous êtes grand-mère ou grand-père et vous le reconnaissez, vous avez une préférence pour l'un de vos petits-enfants. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.